Oh, le Seigneur est bon. Merci, Jésus. Simple message pour vous ce soir, mais qui est, je pense, quelque chose de très profond en même temps. Souvent, c'est comme ça, n'est-ce pas? Quand on prêche quelque chose de simple, il peut avoir un profond impact dans notre vie. Surtout, nous savons que ce n'est pas ce qu'on entend qui va faire la différence, mais c'est ce qu'on entend et qu'on met en pratique. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Celui qui construit sa maison sur le roc entend la parole et la met en pratique. Donc, j'ai intitulé ce message « Dieu accomplit toujours sa parole ». Et le verset clé que j'ai trouvé, c'est en Nombre 23, 19, qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Malheureusement, nous pensons avoir fait Dieu à notre image. Mais c'est Dieu qui nous a fait à son image. Donc on remet souvent sur Dieu la personnalité, la caractéristique de l'homme. Donc c'est pourquoi on a besoin de retourner dans la parole de Dieu et découvrir exactement qui il est. Donc si vous avez votre Bible, est-ce qu'on peut faire une bonne déclaration? Hallelujah. Dis ceci avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu déclare à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme et je suis capable de faire tout ce qu'elle me promet. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actions sur la parole de Dieu. Ainsi, je remporte la victoire à la gloire de Dieu dans tous les domaines de la vie. Ce que je dis s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Hallelujah. Donc la parole de Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça doit nous faire réjouir déjà. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Qu'est-ce qui nous agace le plus? Des hommes d'influence, des hommes qui dirigent. Ouais. C'est qu'ils disent une chose et ils font une autre. Ils nous font des promesses et ont l'impression qu'ils n'ont jamais eu l'intention de les remplir. C'est des promesses dans l'air. Ils utilisent leurs paroles. Ouais. Mais ils ne se tiennent pas derrière leurs paroles. Je veux que nous comprenions que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il n'a pas besoin de se repentir. Ouais. Ce qu'il dit, il le fera. Ouais. Ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Notre verset en Samuel 1, 15, chapitre 15, verset 29. Il dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes incapable de faire? Oui? En tant qu'être humain, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, n'est-ce pas? Écoutez bien, Dieu est incapable de mentir. Et ça doit nous réjouir le cœur. Alors, nous allons continuer et vous allez peut-être comprendre mieux. Oui. Il dit, car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, je regardais un petit peu ce mot repentir. Je crois qu'on a beaucoup d'idées traditionnelles, religieuses sur ce mot, se repentir. Il y a plusieurs mots grecs. Un, c'est metanoa, oui, se repentir. C'est changer sa façon de penser ou son but. De changer sa façon de penser ou son but. Oui. Moi, je m'appelle mon pasteur, donc il y a, ça doit être au moins 36, 37 ans passés, m'a dit ceci. Il dit, quand le centenier dans l'armée romaine voulait ses 100 hommes changer de direction, il criait, répentez-vous. Donc, ils étaient en train de marcher dans la direction, ils disaient, c'est pas le droit. Il dit, répentez-vous, et ils font un 180. Ça, c'est se repentir. Mais ça commence ici dans la tête, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous réalisons, nous acceptons que nous avons fait une mauvaise décision. Nous ne sommes pas en train d'aller où on veut. Et on se repent dans sa tête. Et on change de direction. Il faut changer ce que nous sommes en train de dire. Il y a des actions qui doivent changer. Nous étions en train de marcher sur le chemin du diable. Nous étions esclaves au péché. et nous avons entendu l'évangile que Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous libérer. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est repenti. On a changé de direction. On dit, Dieu est par là, il n'est pas par là. Je change ma mentalité, mes paroles, mes actions. L'homme a besoin de se repentir. Et aussi longtemps que vous vivez sur terre, vous aurez besoin de se repentir. Il y a des choses où vous dites, ce n'est pas exactement ce que Dieu a voulu. Il faut que je change de direction. Il faut que je change ma mentalité. Mais comprends ceci. Dieu n'est pas un homme. Ni pour mentir, ni pour se repentir. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Quelle est la différence entre l'homme et Dieu? L'homme n'est pas parfait. Si on était parfait, ouais, on n'aurait pas besoin de changer. Dieu est parfait. Difficile pour nous de concevoir parce que nous vivons dans un monde corrompu par le péché, un monde imparfait. Et on est entouré des hommes imparfaits qui doivent se repentir. N'est-ce pas? Mais ne mettons pas les caractéristiques qui sont en nous sur Dieu parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Oui. Quand Dieu déclare quelque chose, nous pouvons être sûrs et certains que cela arrivera. Pourquoi? Parce qu'il ne changera pas ni sa façon de penser, ni son but. Amen? Est-ce que ça va? Oui. Dieu accomplit toujours sa parole. Si vous voulez que ça s'accomplisse dans votre vie, il faut que vous prêtez votre foi à sa parole. On va y arriver. Noël. On va arriver, n'est-ce pas? Je ne sais pas si... moi, je ne suis pas encore allé dans les magasins pour Noël, donc je pense qu'il y a de la musique, il y a toutes sortes de choses, mais Noël, c'est une histoire d'amour. Vous vous rappelez le chant? C'est Noël que je préfère. Ok, on va essayer encore. C'est Noël que je préfère. Pourquoi on aime-t-on cette histoire? Jean 3, 16 nous dit pourquoi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Quiconque croit en lui, ne périront point, mais qu'ils auront la vie éternelle. Amen. Deux versets qu'on connaisse bien. Dieu a parlé à travers l'Ancien Testament pour annoncer qu'il allait envoyer un Messie. Et en Isaïe 7, 14, j'ai pris la version Darby, parce que je pense que c'est un peu plus clair. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur, Isaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Voici la Vierge, donc si vous êtes en train de regarder dans le second, il dit la jeune fille. Mais Darby est beaucoup plus clair, il est en train de parler d'une jeune fille, et nous savons ce que c'est une Vierge, ouais, et il parle d'une jeune fille qui n'a pas connu un homme. La jeune fille, ce ne sera pas une signe si ce n'était pas une Vierge. Ouais, une Vierge concevra, ouais, et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, ou Dieu parmi nous. Amen. C'était le signe, ouais, que Dieu allait changer les choses. Pourquoi? Parce que dès le moment que Adam et Ève ont péché, Dieu a mis en marche un plan pour le salut de l'humanité. Déjà, donc, Adam et Ève se sont couverts avec des feuilles de figues, ouais, des figuiers. Ouais, il s'est couvert avec ses feuilles pour couvrir leur nudité parce que tout d'un coup, ils n'avaient plus la gloire de Dieu qui les couvrait. Et Dieu a dit, ça ne suffit pas. Pour le pardon du péché, il faut la versement du sang. Et il a sacrifié un animal pour le couvrir avec des peaux, ouais, d'animaux pour que le péché, ouais, d'Adam et Ève puisse être couvert pendant un temps. Mais il avait déjà pensé, ouais, c'était déjà dans sa tête de pouvoir son fils parce que le sang des boucs, ouais, le sang des animaux ne peut pas enlever le péché, ne peut pas remettre notre péché. Donc, il y a encore des chrétiens qui croient que le sang de Jésus couvre nos péchés. Mais moi, je dis, attention si vous croyez ça, parce que quelque chose qui est couvert peut être découvert. Mais quelque chose qui est effacé, oui, vous comprenez la différence? Oui, ne peut pas être relevé, révélé après. Et Jésus, et le sang de Jésus, ne couvre pas nos péchés. Quelqu'un dit alléluia. C'est quelque chose de très, très fort parce que moi, j'ai cru pendant des longues années, en tant que jeune chrétien, que tous mes péchés étaient marqués dans le livre. Et quand j'arrivais au ciel, on a ouvert ce livre. Vous pensez que je voulais aller au ciel? Mais absolument pas. Oui. Et quand j'ai appris que le sang de Jésus a effacé mes péchés, j'ai dit, ah, moi, je veux aller au ciel. Oui. Dieu dit qu'il envoie nos péchés dans la mer de l'oubli. Ça, c'est difficile pour nous de concevoir aussi parce qu'on se rappelle. Malheureusement, hein, j'ai en train d'écouter une prédication, c'est qu'on se rappelle mieux des fautes que nous avons faites, hein, que des bonnes choses que nous avons faites. Le prédicateur qui est prêché dit, 100 personnes peuvent me dire, à la fin du célébration, c'était un excellent message. Mais si une personne dit, oui, ça m'a confusé, je n'ai pas compris, je n'ai pas aimé votre message, il dit, c'est ça que je vais me rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a un système dans notre tête qui est différent pour les choses négatives que pour les choses positives. Et on est wired, comment est-ce qu'on dit ça? On est branché d'une façon qu'on se rappelle du négatif, que c'est dommage. Mais Dieu n'est pas branché de cette façon. Il oublie, hallelujah, oui, ce que nous avons fait quand nous avons demandé pardon. On s'est repenti, s'est jeté dans la mer de l'oubli. Et si vous retournez à Dieu pour demander pardon une deuxième fois, il va vous dire, si vous l'écoutez, vous parlez de quoi? Moi, je trouve que c'est formidable. Mais Dieu a mis un plan en marche pour le salut de toute l'humanité. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe, Ésaïe 7, 14, voici la Vierge concevra, hein? Et elle enfantera un fils et elle appellera son nom Emmanuel. Hallelujah. Et la parole de Dieu est très, très claire. Est-ce que je peux vous encourager à faire quelque chose? Parce que je sais que cette période de Noël devient de plus en plus rapide. Et quelquefois, nous arrivons à Noël et nous n'avons pas repris nos Bibles. Et nous n'avons pas relu l'histoire de Noël. Et moi, je dis... Vous pouvez passer des heures et heures dans les commerces en train d'acheter des choses et préparer le repas. Mais si on oublie l'essence de Noël, reprend l'évangile de Matthieu, oui, et l'évangile de Luc qui donne le récit de ces choses et vous allez être émerveillé des miracles, les anges qui paraissent, les sages qui viennent de l'Est, les bergers, oui, qui viennent adorer le Seigneur. C'est une histoire pleine d'amour. Amen. Et ça va vous faire tellement, tellement de bien. Oui. Dieu accomplit toujours sa parole. Il a promis d'envoyer le Messie, il a fait. Qu'est-ce qu'il vous a promis dans votre vie? Parce qu'il va le faire. Michée 5.1 dit ceci, « Et toi, Bethléem, très important ce verset, oui, Ephatra, petite entre les milliers des Judas, de toi sortirait pour moi, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Le prophète a dit, il sortira de Bethléem. Pourquoi Bethléem? Parce que, ouais, il était dit qu'il sera, ouais, un fils de David. Amen. Et vous rappelez cette histoire, c'était le premier consensus qui a eu lieu, ouais, dans l'Empire romain. Et Joseph, qui était fiancé avec Marie, devait retourner dans sa ville, oui, de naissance, et il retourne à Bethléem. Et plus tard, les gens disent, tu ne peux pas être le Messie parce qu'on sait d'où tu es, en croyant qu'il était de Nazareth. Et il dit, mais Jésus ne devait pas venir de Nazareth, il devait venir de Bethléem. Ils savaient ces choses, mais ils ignoraient, oui, vous savez ce qui se passait après la naissance de Jésus, rappelez? Hérode a décidé de tuer tous les fils parce qu'il pensait que Jésus venait pour être un roi et prendre sa place. Il a tué toutes les nouveau-nés de 0 à 2 ans. Et Jésus a besoin de fuir en Égypte. Et la prophétie dit, je appellerai mon fils de sortie d'Égypte. Vous pensez que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie? Comprendre ce que Jésus a vécu. Je suis sûr qu'il a été élevé. Oui, et les gens ont dit, mais pourquoi, tu viens d'où? Pourquoi tu as cet accent? Oui. Et après son père meurt, il a vécu plein de choses. Il peut compatir à notre faiblesse. C'est quelque chose de formidable. Mais il y a toutes ces promesses qui sont données. Dieu accomplit. Dis avec moi, Dieu accomplit toujours sa parole. Oh, hallelujah. Jérémie, verset 1, chapitre 1, verset 12. Un verset pour moi qui a toujours été un verset clé. Parce que Dieu demande à Jérémie dans ce chapitre, qu'est-ce que tu as vu? Et Jérémie dit ce qu'il a vu. Et il dit ceci, Jérémie, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur quoi? Sa parole. Qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être nous devons veiller sur sa parole. Oui, mais personne ne peut être sûr que ce que Dieu va faire. Pardon? Oui, mais on ne sait jamais si Dieu va faire. Tu sais, les voies de Dieu sont... Qu'est-ce qu'on va... Oui, vous avez lu ça où? Moi, je vis voir ici, Dieu veille sur sa parole. On sait exactement ce qu'il va faire. Parce qu'il nous a donné les promesses et il accomplit toujours sa parole. Amen. Jérémie 1, 12. Mais peut-être vous êtes comme moi. Moi, je n'aime pas seulement lire dans l'Ancien Testament. Parce que je ne suis pas juif. Ouais, je suis chrétien. Et vous? Je ne vis pas selon l'Ancien Testament. Moi, je vis selon le Nouveau Testament. J'ai une nouvelle alliance. La Bible dit en Hébreux 8, 6 que cette meilleure alliance établie sur des meilleures promesses. Donc, regarde avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Nous sommes en train de dire que Dieu accomplit toujours sa parole. Ça veut dire quoi? Et on va arriver. Ça veut dire que si vous trouvez une promesse de Dieu qui concerne votre situation, vous pouvez, permettez-moi d'utiliser ce terme, vous pouvez camper sur cette promesse. Vous pouvez vous tenir dans cette promesse. Et Dieu l'a dit, ça va se faire. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 1, verset 20. Il dit, pour ce qui concerne combien des promesses? Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en qui? En Jésus. Oui, qu'est le oui? C'est quelles conditions pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie? C'est que nous soyons en Christ, en Jésus. Et il continue à dire, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu dit quelque chose. En Christ, nous disons, c'est une promesse de Dieu, c'est pour moi. Et moi, je dis, amen, que ce soit ainsi. Vous comprenez ce que amen veut dire? Ou vous pensez que c'est la ponctuation à la fin d'une prière? Non, ça veut dire, je suis d'accord. Amen, que ce soit ainsi. C'est ça, amen. Et je dis, amen à la parole de Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses, pas quelques-uns. Dieu merci qu'il ne fait pas de favoritisme. Je ne sais pas combien de versets il y en a qui dit Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il aime tous ses enfants et ce qu'il a promis, c'est pour nous tous. Hallelujah. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous dans notre situation actuelle? Très bonne question. Quelle promesse de Dieu croyez-vous? Est-ce que vous avez des promesses précises? Moi, j'ai enseigné beaucoup à l'école de prière sur le fait qu'une prière sans fondement biblique ne peut jamais être exaucée. On ne peut être sûr de quoi que ce soit. On a prié des prières parce que je veux. Parce que j'ai vu d'autres, parce que des prières émotionnelles, moi j'appelle aussi des prières de pompiers. Il y a un feu ici, donc « Seigneur, sauve-nous !» Situation là, « au secours !» Est-ce qu'on a un fondement biblique pour prier comme ça? J'ai enseigné les mardis soirs, certes, beaucoup d'entre vous étaient là, mais d'autres n'ont pas, donc je répète. Voilà comment prier. Il faut prier le Père dans le nom de Jésus. Matthieu 6, verset 9. Ouais. Priez le Père. Matthieu 6, verset 9. Ils ont dit, comment est-ce qu'on prie? Il dit, quand vous priez, il dit, notre Père. Est-ce que je veux prier les arbres? Vous pouvez. Ou les pierres? Vous pouvez. Ou des statues? Vous pouvez. Mais la Bible ne vous promet absolument aucun résultat. Et beaucoup de gens prient beaucoup de choses et ils perdent leur temps. Ouais. Là, Jésus dit, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit, priez le Père. Et il dit, priez en mon nom. Jean 16, 23 et 24 dit, « Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Pourquoi demander au nom de Jésus? Quelqu'un a une clé de voiture? Quelqu'un a une clé de voiture? Tu as une clé de voiture? Non? Personne n'a une clé de voiture? Vous n'êtes pas venu en voiture? Donne-moi une clé de voiture, s'il vous plaît. Ah, j'ai une clé de voiture, donc c'est le marque... C'est un Renault, d'accord? Est-ce que je peux ouvrir mon Toyota avec cette clé? Non? Est-ce que je peux ouvrir beaucoup de Renault avec cette clé? Normalement pas. Cette clé, ouais, est l'unique, ouais, clé qui ouvre. Toi, tu connais mieux que nous, n'est-ce pas? Donc, Marie et son mari en école de conduite, oui. Il y a une clé par voiture, n'est-ce pas? Normalement, on ne peut pas ouvrir une autre voiture. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Ouais, ouais, ouais. Mais cette clé, donc peut-être j'ai un double, mais il n'y a pas d'autre clé, d'autre voiture qui va ouvrir ma voiture. Il faut que nous comprenions ça. C'est basique, mais ça va vraiment vous libérer dans la prière. Savoir qu'il y a une clé qui ouvre le ciel pour nous. C'est le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prier au nom de je ne sais pas qui. Mais il n'y a aucune promesse, aucune assurance que vous serez exaucé. Mais vous priez le Père. Merci, je vous rends. Hein? Dans le nom de Jésus, hein? Déjà vous avez bien commencé. Mais il faut aussi prier selon la parole de Dieu. Jean 15, 7 dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il faut prier le Père, au nom de Jésus, selon la parole de Dieu, et il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Romains 8, verset 14 dit, oui, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et il faut prier avec foi. Dis avec moi, il faut prier le Père, au nom de Jésus, selon la parole de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, et avec foi. 1 Jean ouais, 14, 15. Regardez avec moi. Pourquoi est-ce important? Parce que Dieu accomplit toujours sa parole. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, je ne pense pas qu'il y a quelque chose aussi sûr dans tout l'univers ouais, que la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, le créateur de l'univers, se tient derrière sa parole. Il nous a promis le Messie. Il nous a promis un sauveur. Et à travers l'histoire, ouais, ce sauveur est arrivé. Nous regardons en arrière maintenant, 2000 ans. Et on va fêter, et à travers le monde, on va fêter. Et certains ignorent pourquoi nous fêtons Noël. Mais parce que Dieu a envoyé un sauveur. Écoutez bien, 1 Jean 5, 14 et 15. Moi, je vous encourage à souligner ça dans votre Bible. Hallelujah. Il dit, et si nous avons auprès de lui cette assurance, tout le monde dit assurance, ça veut dire que nous pouvons être sûrs que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Imaginons. L'être le plus puissant dans tout l'univers, il nous écoute. C'est pas mal comme pensée, n'est-ce pas? Tu veux dire, il m'écoute quand je parle? Oui, si vous demandez quelque chose selon sa volonté. Oui, mais qui peut connaître sa volonté? 1 Jean 5, 14, 1 Jean 5, 15 dit, et si nous savons qu'il nous, si nous savons, excuse-moi, qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons quoi? Que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Dieu accomplit toujours sa parole. Je vous pose la question. Vous êtes en train de croire pourquoi? Quel verset? Quelle promesse? Moi, j'ai lancé un défi aux gens quelques mois passés, mais vous devez avoir une promesse pour votre croissance spirituelle. Vous avez besoin d'une promesse pour votre famille. Vous avez besoin d'une promesse pour votre finance, votre prospérité. Vous avez besoin de promesses dans tous les domaines de votre vie. Et les gens me regardent comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit toujours sa parole. J'étais en train de descendre à l'église l'autre jour et j'ai mis ma Bible pour écouter. J'étais en train d'écouter l'épître d'Hébreu. J'ai écouté presque toute l'épître d'Hébreu en descendant. C'était quelque chose de formidable. Et je suis arrivé à Hébreu 4. Et je ne sais pas combien de fois j'ai lu ça. Il faut savoir que je lis ma Bible maintenant depuis 39 ans. Donc j'ai lu plusieurs fois. Et je suis arrivé là et c'est comme j'étais scotché sur la scène. Ah oui, je me rappelle! Vous connaissez? Hébreux 3 et 4, c'est des chapitres absolument formidables de la Bible. Mais en Hébreux 4, verset 2, il dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. » Mais quelle tristesse! Ils ont reçu la même bonne nouvelle, mais cette parole qui sort de la bouche de Dieu n'a rien accompli. Il y a un problème, non? Mais il va nous dire pourquoi, ne servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendent dire. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Dieu accomplit toujours sa parole. Est-ce que sa parole va s'accomplir dans ma vie? Là, il y a une condition à remplir. Il faut que je le croie. Il faut que je le saisisse. Amen? Mais écoutez-moi bien, vous l'avez entendu les gens dire, oui, mais ça ne marche pas, mais c'est impossible. Et ils commencent à vous raconter la situation économique, ils vous commencent à raconter la situation sociale, ils vont vous dire de quelle famille ils sont, ils vont donner toutes ces excuses. Et nous avons besoin de dire, pendant que quelqu'un est en train de dire que c'est impossible, quelqu'un autre est en train de le vivre. Oui? Vous voulez être ceux qui sont dit que c'est impossible, que Dieu ne peut pas faire ce qu'il a promis? Vous voulez être ceux qui croient et voient cette parole s'accomplir dans votre vie? Est-ce que vous voyez notre part? Dieu se tient toujours derrière sa parole, mais nous devons croire sa parole. Oui? Romains 8, 32. J'ai presque terminé. Il dit, lui qui n'a point, Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, on parle de Noël encore, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une promesse absolument exceptionnelle. Vous imaginez? Qui ici a un fils? Vous donnerez votre fils?
Non.
On donnerait pas notre fils. Dieu l'a fait. On n'est pas en train de demander à Dieu de le faire, il a fait. Amen. Et la Bible dit, celui qui a donné son fils est prêt à nous donner toutes choses avec lui. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avoir toutes choses? J'ai besoin de croire. J'ai besoin de dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il va le faire. Amen. Et moi, je vous encourage. Écris les domaines de votre vie, surtout les domaines où vous avez plus de problèmes, et dire, quelle est ma promesse? Qu'est-ce que je mets ça? Qu'est-ce que je veux que Dieu accomplisse dans ma vie? Et commence à vous tenir là-dessus et dire, voilà, Dieu, tu as dit, tu veilles sur ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et je déclare, tu l'as dit, tu vas le faire. Et tu commences à te réjouir, c'est ça la foi, avant que quelque chose change. Parce que ça doit changer ici. Ça doit changer ici, dans ta tête, dans ta bouche. Ça va changer vos actions. Amen. Et je vous promets, parce que Dieu ne peut pas mentir, et il ne se repentirait pas. Il veut vous bénir. Décidons de recevoir sa bénédiction. Je termine en lisant Hébreux 10, 35. Vous savez, il y a certains passages dans la Bible qu'il faut retourner souvent. Ce passage est tellement encourageant. Moi, je vous dis, peut-être vous avez besoin d'y aller tous les jours pendant un mois. Jusqu'à ce que ça vraiment vous inculque. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Rappelons-nous que Dieu est le Dieu de la récompense. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Hein, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il y a des gens qui disent, Jésus ne revient pas. Il revient. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Terminons là où nous avons commencé. Nombre 23, 19. Vous aurez besoin de méditer cela. Parce que si vous avez mis, oui, la caractéristique de ton père, ou d'un professeur d'école, ou un politicien, une personne d'influence, oui, vous avez mis cette caractère sur Dieu et vous dites, cette personne m'a déçu. Dieu m'a déçu aussi. Vous avez besoin d'enlever ça et dire, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'est point un homme pour mentir. Et nous avons eu peut-être des bons pères, mais j'ai appris ceci avec mon père. Mon père n'était pas tout puissant. Et des choses qu'il a voulu faire, mais il ne pouvait pas faire. Mon père était un homme de parole, par contre. Il n'a jamais dit qu'il ferait quelque chose, hein, qu'il n'a pas pu faire. Hein. Mais il n'a jamais fait une promesse de me dire « je vais faire ça » et pas fait, mais il savait ses limitations. Mais je ne peux pas mettre cette caractéristique sur Dieu et dire « et Dieu est limité aussi ». Non. Ouais. D'autres ont eu des pères qui ont promis des choses et qui ont menti. Ouais. On a été déçus, n'est-ce pas, par des hommes. Et nous allons être malheureusement déçus dans le futur par les hommes. Mais ne mets pas ça sur Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et la réponse est, oui, il va le faire. Toutes ses promesses sont oui. Et c'est pourquoi nous disons, amen. Merci Seigneur, je vous invite à vous lever. Merci Père, merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur, oh nous te louons ce soir. Hallelujah, hallelujah. Père, particulièrement nous voulons te louer pour la promesse que tu nous as donnée d'un sauveur. Seigneur, tu apparais dans l'éternité que tu enverras quelqu'un mourir à notre place, prendre, oh, si qu'un nous se prend notre jugement, parce que la parole de Dieu dit, alléluia, oh, merci Seigneur, la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, c'est pourquoi je dis alléluia, il est venu mourir à notre place. Il est venu payer notre prix, parce que Dieu est un Dieu juste. C'est un être juste dans l'univers, c'est notre Dieu. Il n'a pas pu dire, j'oublierai. Il a dit, quelqu'un doit payer. Il a envoyé son fils payer à notre... Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Oh, hallelujah. Merci, Père. Nous te disons merci ce soir que tu n'es pas un homme pour mentir. Et Père, nous voulons baser, fonder notre vie, hallelujah, sur tes promesses. Oh, merci Jésus. Tout le monde dit merci Seigneur. Vous savez, il faut répondre à la parole de Dieu. La première réponse que nous devons faire, c'est de faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Vous l'avez fait? Oh, et c'est tellement important. Parce que nous devons entendre la parole de Dieu prêcher. Mais si nous ne répondons pas, oui, c'est comme pas ajouter notre foi. Et il n'y aura pas de résultat dans notre vie. Moi, j'ai formulé quelques paroles pour ceux qui ont besoin d'inviter Jésus d'entrer dans notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez, mais nous avons beaucoup de gens qui écoutent nos messages maintenant. Et on les salue. Et on les bénit. Amen. Et parmi ces gens, il y a les gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Peut-être vous faites partie de leur nombre. Donc, faites cette déclaration de foi et invitez Jésus d'entrer dans votre vie. C'était la meilleure décision de ma vie. Quand j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, Jésus, entre dans ma vie. Et il a commencé cette transformation. Oui, qui commence avec la nouvelle naissance. Alléluia. Faites ces déclarations avec moi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je crois et je suis sauvé. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, oui, je vous félicite et dis bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu.